Jacques, le chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Jacques est toujours en train de faire l'emphase sur les œuvres, hein, parce que la foi doit se montrer par les œuvres. Je ne peux pas dire que je suis croyant qui a la confiance pleine et qui dépend des yeux, puis je suis désespéré quand je n'ai pas d'emploi. Il faut tout simplement chercher puis déposer la confiance en Dieu. Mais je continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si on passe au chapitre 4 jusqu'au verset 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques est très direct. Il va toujours traiter le point qu'il voit, qu'il veut que le monde apprenne. Et il va aller direct au point important pour lui, qu'il doit corriger, qu'il veut corriger aux frères de l'Église juifs de Jérusalem. Mais il parle en général, il parle aussi pour nous. Sauf que ses interlocuteurs primaires, on dit, c'est l'Église de Jérusalem, l'Église juive. C'est très évident qu'il a écrit cette épître pour l'Église universelle, pour qu'on apprenne. Est-ce qu'on n'a pas des passions qui combattent dans nos membres? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes avec nos convoitises? Oui. Et comme on disait dimanche passé, les contextes changent, l'époque change, mais l'homme reste pareil. Si on va voir dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu donnait comme directive à Moïse, par exemple, dans le Pentateuque? Il a dit les mêmes directives. Il a donné les mêmes interdictions face à la conduite de l'homme, parce que l'homme toujours était pareil. L'homme, le corps de l'homme est toujours méchant. C'est ça que la parole nous dit. Justement parce que moi, je suis avec l'aide de Dieu. Dieu m'a révélé un jour et je me suis reconnu vraiment comme j'étais méchant. Et chacun de nous, je crois, ceux qui avons accepté le Seigneur, on s'est reconnu méchant. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Parce qu'en premier lieu, il nous a montré notre état de pécheurs, de pécheresses. Puis on a reconnu que c'est vrai. Et à ce moment-là, le Seigneur vient œuvrer dans le cœur de nous. Et puis ça se produit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Mais il faut que nous soyons conscients. Et c'est par l'œuvre du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui vient nous exhorter, mettre devant nous le péché que nous avons et que parfois on ne veut pas reconnaître. Il semble qu'il y a un certain problème pareil à l'église de Jérusalem. Et c'est ça que Jacques veut traiter aujourd'hui. Il parle de deux sagesses. Il parle de la sagesse terrestre d'ici et bas et la terrestre d'en haut, la sagesse qui vient du ciel, qui vient de la part de Dieu. Peut-on dire qu'il y a deux sortes de sagesse? Vraiment? Ou est-ce qu'il existe une seule sagesse? Jacques parle de deux sagesses. Il existe vraiment une seule sagesse ou est-ce qu'on peut dire qu'il existe deux sagesses? Et Jacques est en train de parler de deux. Ben, il faut croire ce que la Bible dit. Moi, je crois, la Bible dit deux sagesses, je crois qu'il y a deux sagesses. Et en fait, je crois que selon ce que Jacques parle, il y a deux sagesses. La sagesse au niveau humain, et la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Je préparais mon cours, je disais, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment deux sagesses? Jacques dit, oui, il y a deux sagesses. Si on parle au niveau du monde, il y a une sagesse. Que ce n'est pas la sagesse qui nous amène vers les choses vraiment qui valent la peine, qui ont la valeur éternelle, ça c'est une autre chose. Mais il y a une sagesse humaine. Et c'est Dieu qui a donné. Dieu a dit qu'il donne la science, il a donné la science à l'homme pour que l'homme puisse faire un usage assez bien de la science, de la connaissance. Et l'homme possède une certaine connaissance qui vient de Dieu, mais il ne le reconnaît pas. Mais il y a une sagesse au niveau humain, et je crois que c'est dans ce sens-là que Jacques veut nous montrer. Et il veut faire la comparaison, d'une certaine façon, entre la sagesse du monde, la sagesse humaine, et la sagesse de Dieu, qui est toujours bien par-dessus la sagesse de l'homme. Et pour, comme introduction, j'avais mis un paragraphe qui dit « Normalement, pour un chrétien, une chrétienne, la relation qu'il ou elle a avec le Seigneur doit lui procurer la paix. Toutefois, quand la pression monte, normalement, c'est à cause des conflits et chicanes qui l'accompagnent. Ce problème est lié directement avec l'usage de la langue aussi. Le problème est toujours le fait de l'instabilité sociale et religieuse, ainsi qu'économique. Et je parle directement de l'Église de Jérusalem. Ils n'ont pas cogné à la bonne porte et cela les a mis dans l'espoir et le stress, donnant comme résultat les frictions dans l'Église, les problèmes dans l'Église. Jacques veut qu'ils aillent à la source de la paix. Jacques est en train de faire un appel à l'Église et leur montrer c'était quoi le problème. Comme je disais, Jacques n'est pas en train d'imaginer des choses. Hein. Jacques n'est pas en train de parler à l'Église parce qu'il pense que ça pourrait se produire une telle chose. Je crois qu'il a un focus directement sur des problèmes spécifiques qui se passaient à l'Église. Et à l'Église de Jérusalem, il y avait apparemment une chicane constante, comme on a vu dans les autres cours. Il faisait d'acception des personnes. Okay? Jacques vient toucher le problème, pas parce qu'il imagine ça. Il a vu, il a vécu, il a des problèmes spécifiques dans sa tête. Il veut corriger ces problèmes-là. C'est pareil maintenant, quand il parle des douze sagesses, c'est parce que Jacques est en train de corriger, de montrer aux frères dans quel problème qu'ils étaient à l'église de Jérusalem. C'était quoi vraiment le problème? Il semble que la source du problème, pourquoi il y avait des chicanes, pourquoi est-ce qu'il faisait acception de personnes, pourquoi il parlait l'un contre l'autre. Parce que quand il parle de la langue comme un petit membre qui est difficile à dompter, il est en train encore de parler du commérage. Vous vous souvenez du paragraphe de M. MacArthur qui parle du commérage, comment il fait mal à l'homme en général, mais beaucoup plus à l'Église. Vous savez que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, qui veut détruire l'Église du Seigneur. Il ne peut pas détruire notre salut, parce que notre salut est éternel. Le salut a été fait par Dieu lui-même, il nous a donné ce salut-là, et Satan ne peut rien faire, mais il peut anéantir l'Église, par exemple. Il peut rendre un chrétien stérile, qui ne produit pas, qui ne sert pas le Seigneur. Parfois, on croit vivre une vie spirituelle bonne, comme je disais aussi, parce qu'on vient à l'église. Et mes frères, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te donne la spiritualité. Quelle façon tu mets en pratique la parole de Dieu? Et c'est ça le problème pratique de Jacques. Jacques veut montre ta foi par tes offres. Tu peux pas dire que tu crois en Jésus-Christ, puis tu vis la vie que vit tout le monde ailleurs. Dans l'église, c'est facile d'être chrétien. C'est facile de lever les mains. C'est facile quand on chante. Mais comment tu vas agir quand tu es à l'extérieur? Quand tu es confronté avec la tentation? Quand tu es confronté avec les problèmes quotidiens de la vie? Quand tu as une chicane avec ta femme? On n'a jamais de chicane avec nos femmes. Hein? Ou quand nos enfants n'obéissent pas? C'est là que je dois montrer. Comment je me laisse diriger par la parole du Seigneur? Est-ce que j'applique la parole du Seigneur de la façon dont Jacques veut qu'on l'applique? Voilà, c'est ça la différence. Et Jacques veut encore mettre l'emphase sur le problème des douze sagesses. La sagesse de l'homme, du verset 13 au verset 16, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Il pose la question. « Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Alors, encore une fois, « Ok, tu es intelligent, tu te crois sage, montre-le. Pourquoi tu agis alors comme ça? Pourquoi tu agis tout le temps selon tes désirs et non pas selon la parole de Dieu ?» Voilà ce qu'il veut dire vraiment. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et il semble que peut-être Jacques est en train de parler du zèle amer. Qu'est-ce qu'on peut penser? Quelle idée vous donne quand il dit un zèle amer? À quoi il fait référence? Ou l'envie, peut-être. La jalousie, l'envie, que c'est à peu près la même chose. Moi, je lisais aussi un commentaire en espagnol. Monsieur MacArthur dit à peu près la même chose aussi. Il dit, apparemment, le zèle amer, qu'est-ce qu'il veut montrer par la phrase zèle amer, Jacques? Il est en train de penser à la jalousie qu'il y avait entre les frères et les sœurs dans l'église. Ou l'envie. Oh, la maison de mon frère, il y a beaucoup de choses que moi je voudrais avoir. Il y a des choses que je peux avoir une certaine jalousie qui n'est pas méchante. Mais je peux aimer, disons, quelque chose que mon frère, ma soeur peut avoir. Et je dis, bon, Seigneur, peut-être qu'un jour je pourrais l'avoir. Et je voudrais avoir ça, mais c'est tout. Mais cette jalousie, cette zèle amère, y a mené les frères à faire le mal contre celui qui avait les choses qu'il n'avait pas. C'était une action méchante. La jalousie, c'était vraiment quelque chose qui amenait à parler l'un contre l'autre, l'avoir par mauvais moyens.
Est-ce que ça ne peut pas être aussi, quand on fait un travail quelconque dans l'Église, puis qu'on critique les gens qui ne viennent pas nous aider? Alors, notre zèle là, est plus joyeux, il n'est plus un travail pour Dieu. Là. Les gens, ils devraient venir faire ça. Avec moi, faire cette chose. Mm-hmm. Il devrait reconnaître ce qui est fait. Là, l'amertume est là, et ça, c'est pas bon.
Oui, je comprends ton point. Moi, je dois toujours penser, ce que je le fais pour le Seigneur, parce que j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur le mérite. Et je le fais de la meilleure façon, malgré que personne ne vienne me dire, mon frère, t'as bien travaillé, t'as bien fait. Ça implique un petit peu la maturité, hein, parce que je suis trop immature, je vais vouloir toujours que quelqu'un vienne me dire merci pour ce que je fais. Quand j'avance dans la maturité, je veux faire les choses, attendre que quelqu'un vienne me dire que t'as bien fait. Je veux le faire parce que je veux le faire pour le Seigneur.
Rien que ce côté, un côté que si la personne se met à critiquer l'Église constamment, mm-hmm. c'est pas rien que l'envie, là. C'est la critique est mauvaise. Mm-hmm. Un zèle amer, c'est quelqu'un qui va tout le temps chercher la petite bête puis critiquer mm-hmm. l'ouvrage qui est fait.
Ouais. Ça pourrait avoir cette dimension-là, mais directement, comme je disais, et comme Dom disait, le zèle amer met le lien entre l'envie, la jalousie, plus directement. Ça peut avoir un certain rapport avec ce que Richard dit aussi. Mais le zèle amer, les frères à l'Église, cette attitude-là. Alors, il veut corriger l'aspect du zèle amer. Il dit aussi un esprit de dispute. Je pense que l'esprit de dispute, c'est comme le résultat du zèle amer. Parce que moi, je suis jaloux. Je suis envieux, et à un moment donné, ça va sortir. La parole du Seigneur dit qu'on a dans le cœur de l'abondance que nous avons dans le cœur par la bouche. Et tôt ou tard, ça va ressortir, ça va se montrer. Il y a la jalousie aussi ministérielle, vous savez. Parce que mon frère, je considère qu'il est un bon prédicateur, ou parce que mon frère, je pense qu'il est un bon diacre. Je vois que tout le monde reconnaît mon frère, comment est-ce qu'il prêche, comment est-ce qu'il sert le monde, comment est-ce qu'il travaille à l'église. Puis moi, peut-être que mon travail n'est pas bon. C'est pour ça que personne ne vient. Et au lieu de m'efforcer pour devenir efficace pour le Seigneur, non, je commence la compétition contre mon frère, contre ma soeur. Je veux être si bien accepté que mon frère ou que ma soeur. Et puis ça commence un petit sentiment qui n'est pas bon dans le cœur. Ça, c'est la jalousie aussi. Croyez-le ou non, il y a la jalousie ministérielle dans l'Église. Parfois, un frère vient critiquer quelqu'un, pas parce que vraiment il a vu quelque chose de mauvais, mais parce qu'il a la jalousie contre ce frère-là ou contre cette sœur-là. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la même maturité. Vous savez, la maturité, malheureusement, dans les croyants, n'est pas comme la lumière, hein. On a mis des fluorescents de 40 watts dans toute l'Église. Je mets on le switch. Il va allumer pareil. Mais la maturité chrétienne, malheureusement, c'est pas comme ça. Hein? Dans l'Église, premièrement, il y a des croyants plus nouveaux que nous. Nous sommes plusieurs, nous avons l'âge. Même l'âge dans l'Évangile ne veut rien dire avec la maturité. Moi, je veux vous dire, mes frères, que je connais des gens qui sont pas dans cette Église, des croyants. Et je crois qu'ils sont des croyants. Je crois vraiment qu'ils aiment le Seigneur. Mais que leur maturité n'a jamais avancé. Ils sont des frères plus âgés que moi, dit en passant. Ils restent stables dans une église, puis après un certain temps, oh non, cette église n'est pas la bonne. Puis ils se déplacent dans une autre église. Puis ils arrivent dans cette église-là, jusqu'à un certain moment, puis oh, après un an, non, cette église, la louange n'est pas bonne. Ils se déplacent dans une autre église. Est-ce que vous pensez que c'est un couple mature dans la foi? Pas du tout, mes frères. Est-ce que vous cherchez l'église parfaite et vous allez là? Ce n'est plus parfait. Vous êtes arrivé. Et c'est vrai. Il n'y a pas l'église parfaite sur terre. L'église parfaite est là-bas. Parce que le Seigneur nous aura déjà éradiqué le péché de nos vies. Et tout sera parfait par l'œuvre du Seigneur. Mais nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Mais tandis que nous soyons sur terre, il n'y a pas d'église parfaite. Si je suis là, en tout cas, oubliez ça, mes frères et sœurs. ce n'est pas une église parfaite. Parce que je veux faire le nuance entre l'envie qui m'amène à, oh, je veux servir, je veux me paraître, je veux donner le cours pareil que mon pasteur donne, pour être aussi bon que mon frère, vous comprenez, dans le sens purement humain, charnel. Non, c'est pas il faut faire la différence. Parce qu'on a des modèles, hein. On a des modèles. Et Paul avait le caractère de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Waouh! Quel caractère! Qui d'entre nous pourrait dire, mes frères, soyez des imitateurs de moi comme je le suis de Christ? Waouh! C'est Paul qui avait le caractère, qui avait. Et ce n'était pas vantard du tout. Paul vivait ce qu'il disait. C'est vraiment un caractère qui a le poids. Hein. Lui, il savait de quoi il parlait. Et ce n'est pas un vantard non plus, comme je dis. L'esprit de dispute vient comme conséquence du zèle amer. Hein. La dispute, je suis envieux, je vais, à un moment donné, il va y avoir la dispute entre frères et sœurs. Je vais commencer à parler mal de mon frère va parler mal de moi, et puis la chicane va être là. Hein. L'hypocrisie s'installe aussi, parce que je rencontre mon frère, je vais lui dire, bon, salut mon frère, mais dans mon cœur, il faut faire attention, parce que la division dans les églises, souvent, commence comme ça. Commence avec des petites choses. Parce qu'on ne peut pas contrôler certaines petites choses, puis ça s'agrandit. Hein. Quand on garde des petites choses dans le cœur, ça va exploser avec le temps, là, parce que ça agrandit. Hein. Alors, il faut faire attention. Et parfois, des gros problèmes dans l'Église du Seigneur. Et nous, on est tous responsables de garder cette communion vraie, communion qui est vraiment saine, qui est dans l'amour du Seigneur. C'est pour ça que je disais aussi dans le cours avant, si quelqu'un vous a offensé, venez et parlez. On évite. On est en train de construire la communion, l'union de l'Église. Et c'est ça que Dieu veut. Comme je disais aussi, s'il y a un frère que moi je crois qu'il ne m'aime pas, priez davantage pour ce frère-là. Et priez davantage pour que le Seigneur vous donne la bonne attitude à vous. Laissez le frère avec sa responsabilité devant le Seigneur et sauver la vôtre. Et c'est ça qui doit être le sentiment, la pensée de chacun de nous quand nous nous trouvons dans certaines petites difficultés avec un frère ou une soeur, ayant le caractère, la maturité de venir et parler. Parfois, c'est juste des choses qu'on croit voir. Hein. D'une attention, mon frère a fait une petite chose, mais pas parce qu'il ne m'aime pas, pas parce qu'il a quelque chose contre moi. Et moi, je commence à garder les petites choses dans mon cœur, puis au lieu de venir lui dire, mon frère, j'ai vu telle chose, en telle situation, en telle date avec moi, est-ce que j'ai mal compris ou quoi? Et là, toutes les choses sont éclairées. Mais on continue. Paul vient aussi parler, si on continue de lire le texte, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Jacques mentionne trois choses. Il parle de la sagesse qui vient avec du zèle amer, de la dispute ou qui produit. Ces choses-là, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Il parle de trois choses. Terrestre, de quoi on pourrait parler? À quoi on pense quand il dit que c'est une sagesse terrestre du monde? Dans quel sens? Possiblement quelqu'un qui n'a pas été tellement transformé, qui continue à pratiquer selon le monde, selon le système du monde. Quand il parle terrestre, il parle peut-être du système qui domine la société mondiale. Le système, Jésus-Christ a dit que le prince de ce monde est là. Et c'est lui qui commande le monde, hein. Pas les personnes, mais le monde, le système qui contrôle la société mondiale, disons. À ce point-là que Jacques fait référence, quand il parle terrestre, il parle de sagesse qui n'est pas contrôlée par l'éthique chrétienne, par les principes bibliques, mais qui va selon les principes du monde. Vous voyez de maintenant la propagande commerciale, tu le mérites, hein? Tout le temps, tous les points sont tu le mérites, hein? L'égocentrisme. Et il est mis devant. Ça, c'est la sagesse du monde. Tu es le plus important. Hein? C'est toi qui comptes. Donne-toi le goût. Voici. Ça, c'est la sagesse du monde. C'est quoi le point de vue humain ou la sagesse qui vient de Dieu? Vois les autres comme au-dessus de toi. C'est complètement contraire. l'éthique de Dieu va toujours à l'encontre du courant humain. La sagesse de Dieu va toujours à l'encontre de la sagesse humaine. Que les frères qui sont dans la dispute manifestent une sagesse qui vient du monde, qui est terrestre, qui est selon le système mondial et non pas selon les principes de Dieu, non pas selon les principes bibliques. Mais aussi, il dit qu'elle est charnelle. Quand on parle charnel, est-ce que ce n'est pas la même chose? Qu'est-ce que Jacques est en train de penser ou quand il dit c'est une sagesse charnelle, dominée par nos passions, dominée par mes désirs et non pas par, selon ce que Dieu me demande en tant que chrétien. Je veux en fait me plaire moi-même, je m'en fous de mes frères. Je suis là et moi je veux premièrement voir qu'est-ce que je peux avoir pour moi et cela, c'est difficile. Je répète encore, l'église de Jérusalem était dans une situation économique, sociale, très difficile. Très difficile. Et apparemment, c'est ça qui a produit plein de problèmes dans l'église. Et c'est pour ça qu'ils font du favoritisme. C'est pour ça qu'ils reçoivent un riche et on lui donne la première place dans l'église. Et puis celui qui avait évidemment été pauvre, on le mettait à côté ou debout ou dans son coin, hein. Parce que la situation économique était vraiment précaire. Alors le monde veut avoir un certain bénéfice en agissant comme ça. Alors ils n'ont pas la confiance en Dieu. Ils utilisent la sagesse du monde. Ils montrent une situation très charnelle, une attitude très charnelle. Ils veulent l'avoir pour eux, puis ils ne se préoccupent pas de mon frère, de son besoin, de ce qu'est-ce qu'il a, dans quelle situation mon frère se trouve. Non, je veux avoir pour moi et c'est fini, là. C'était la situation dans l'église de Jérusalem. Et il parle de l'égoïsme, en fait, de l'égocentrisme, quand il parle charnel. Ils étaient égoïstes. Hein, ils voulaient juste sauver leur peau. Ils ne voulaient pas rien savoir de plus. Mais aussi, il dit qu'il est satanique et diabolique. C'est une sagesse satanique, diabolique. À quoi on pourrait penser quand il dit que c'est diabolique?
Entre autres, quand on parle aussi de charnel et de diabolique, il y a une place que c'est toujours l'orgueil. On veut s'élever, on veut se montrer plus humble, plus fin qu'un autre. Donc, on veut prendre la place qui revient à Dieu. Mm-hmm. C'est là que le diable, par le mensonge, le fait juste de mentir et de vouloir s'élever, on joue mm-hmm. le rôle de Satan qui a beaucoup plus surpassé la gloire de Dieu.
Mm-hmm. Ça veut dire, oui, merci mon frère, parce qu'il est en train de dire, en agissant de la sorte, en agissant comme ça, vous ne montrez pas que la même attitude que Satan. Et c'est fort, ça. Hein? C'est fort, parce que c'était quoi la raison pour laquelle Satan a produit sa chute? C'était quoi le vrai problème? L'orgueil. L'orgueil. Alors, il s'était orgueilleux en même temps. Le diable a été, selon Ézéchiel, qui raconte la création du diable, hein, il a dit, tu as été créé presque parfait. Dieu a fait presque parfait. Et à cause de ça, l'orgueil est monté dans ton cœur. Et tu as voulu te faire semblable à l'Éternel. Et tu as voulu prendre la place qui appartient à Dieu seulement. Parce que l'orgueil était là. Et l'orgueil aussi, c'est un problème très, très sérieux dans le cœur d'un chrétien. Dans le cœur de n'importe qui, mais plutôt des chrétiens. Parce qu'on n'est pas en train de montrer encore ce que Dieu nous demande dans nos vies. Hein? C'est quoi l'exemple de Jésus-Christ? Il n'a pas estimé être Dieu et semblable à Dieu, mais il s'est fait quoi? Serviteur. Il a pris la chair. Est-ce que vous avez... Parce qu'on ne comprend pas la dimension, mes frères et sœurs, qui a le fait que Jésus-Christ étant Dieu, il a pris le corps, la forme d'une créature. Le créateur devient comme une créature. Et ça, c'est un abaissement, vraiment, qu'on ne peut pas mesurer la grandeur de cet acte-là que Dieu a fait. Parce qu'il est Dieu parfait. Il a voulu se restreindre dans son corps humain par amour. Il n'a pas de plus grande évidence d'humilité. C'est ça que Dieu veut. Et on fait le contraire. Quand il dit c'est diabolique parce qu'on montre avec l'attitude, les frères ne montrent pas vraiment une attitude selon ce que Dieu veut des chrétiens. Vous êtes en train de montrer une sagesse terrestre, vous êtes en train de montrer une sagesse qui est selon les principes du monde, charnel et diabolique aussi, parce que vous montrez l'orgueil, vous montrez l'égoïsme, et vous montrez que vous n'avez pas compte des principes de Dieu, les principes bibliques, mais vous allez selon les principes du monde, à cause que vous êtes envieux et jaloux l'un contre l'autre. Il met en comparaison, par contraste, la sagesse de Dieu. Voyons le verset 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Quelle différence! Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Okay? Cette sagesse est tout simplement le fait d'être dirigé par Dieu. Agir selon le point de vue divin, cette sagesse produit la paix car elle n'est pas égoïste. Elle met avant tout l'amour entre les frères. Et cette sagesse est pure. Il commence en disant pure. Elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, pleine de miséricorde, exempte de duplicité. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Matthieu 5, les béatitudes, n'est-ce pas? Voyez-vous un certain lien? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 5 quand il parle des béatitudes? Heureux les débonnaires parce qu'ils posséderont la terre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi l'attitude en fait que Dieu veut de nous en tant que croyants? En tant que frère et sœur dans la foi, c'est quoi l'attitude vraiment? On doit avoir un sentiment pur, une amitié claire, transparente les uns les autres, hein? Que nous nous acceptons malgré nos différences. Je parlais aussi même des différences culturelles qu'on peut avoir. Mais à un moment donné, à l'Église, il y avait 37 différentes nationalités. Si l'être humain est compliqué en soi-même, si on considère les différents aspects, vous savez que quand on vient ici au Québec, il y a un choc culturel, malgré que dans l'Amérique latine, on a une société semblable jusqu'à un certain point. Dans les gros affaires, on est pareil. On est catholique, traditionnellement parlant. Et on est dans le monde occidental. On est beaucoup américanisé. Alors, il y a certains qui sont semblables à la société canadienne. Mais en tant que latino-américain, il y a une différence. Et quand on vient ici, il y a certains traits du caractère québécois qui nous choquent, pour dire la vérité. Et on apprend petit à petit à connaître pourquoi certains agissements. C'est une question culturelle, c'est une question purement et typiquement québécoise. Peut-être que parfois, ils vont dire quelque chose de positif, mais aussi de pas négatif. Et les Africains et les Haïtiens, de temps en temps, il y a certaines différences. Mais je dis, quand j'ai parlé de cet aspect culturel, j'ai dit, la parole de Dieu et les principes bibliques sont au-dessus de la culture, mes frères. Parce que parfois, on veut s'excuser, ah non, c'est parce que c'est un aspect culturel. Mais si ça va à l'encontre des principes bibliques, tu dois les corriger, mon frère. Il faut que tu te soumets à la parole de Dieu, parce que ta culture n'est pas par-dessus la parole de Dieu. Et ça vient nous toucher, nous tous. Et malgré qu'il y a certains points que dans mon pays ne se pratiquent pas, je vais aimer mon frère qui le pratique parce que pour lui c'est quelque chose de naturel, s'il ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Voyez-vous? La tolérance. Que Dieu veut qu'il soit pacifique, que la sagesse qui vient d'en haut est pacifique. Ça veut dire que moi je m'efforce pour garder la paix dans l'Église, malgré les différences, malgré que mon frère et ma soeur n'est pas pareil que moi. Mais il faut que l'amour chrétien doit prévaloir, je veux dire, dans l'Église chrétienne. Et je dois tolérer mon frère avec l'amour, avec sincérité. La sagesse d'en haut est conciliante aussi. Qu'est-ce que ça veut dire conciliante? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on comprend par conciliante? L'acceptation. Mais aussi, pas seulement de moi envers une sœur directement, mais que moi je puisse être un médiateur conciliant entre frères et sœurs. Hein? Ça aussi. Conciliante parce que moi j'accepte mes frères malgré ces différences, mais conciliante aussi parce que je dois intervenir si je vois qu'il y a une différence entre des tierces personnes. Je dois venir et avoir la bonne attitude pour procurer toujours la paix dans l'Église. Parce que le but que Jacques veut ou qu'il poursuit, c'est la gloire de Dieu en premier, mais la paix dans l'Église. Parce que Dieu est glorifié quand on est une Église forte. Dieu est glorifié quand on est une Église unie. Dieu est glorifié quand on marche dans la communion et pour le service du Seigneur, pour l'expansion de l'Évangile sur terre. Et ça n'est pas possible si on est une église en division, si on est une église en chicane. Dieu n'est pas glorifié du tout. Et c'est l'ennemi qui prend à chaque fois un peu plus de terrain. Il gagne plus de terrain. Au fur et à mesure que l'église se divise, c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Et Dieu n'est pas glorifié du tout. Et c'est le but principal que Jacques poursuit. Impliqué dans la situation, dans l'exhortation qu'il fait à l'Église. Il dit que la sagesse d'en haut aussi est pleine de miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Moi, j'ai déjà donné la définition de c'est quoi la différence entre miséricorde et grâce. Parce que parfois, on ne fait pas la différence entre ce que c'est la miséricorde et c'est quoi la grâce. On fait presque la même définition, mais ce n'est pas pareil. La grâce et la miséricorde que Dieu manifeste envers nous, c'est que la miséricorde est ce que Dieu ne nous donne pas, ce que nous méritons. C'est ça la miséricorde. Parce que qu'est-ce que je mérite? L'enfer. Parce que je suis pécheur, je suis méchant. La miséricorde de Dieu se manifeste premièrement parce qu'il ne me paye pas selon ce que je mérite. La grâce, c'est le contraire. Que Dieu me donne ce que je ne mérite. Voyez-vous la différence? Alors, si je montre la miséricorde envers mes frères, qu'est-ce que ça veut dire? Que si mon frère m'a offensé, il mérite, dans la sagesse humaine, que je viens avec le double d'offense. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse qui vient d'en haut, non, que je ne lui donne pas ce qu'il mérite. Parce qu'il a commis une faute envers moi. Si je parle d'une façon humaine, je dois aller de la même façon. Hein? C'est ça, la loi du talion. Hein? Œil par œil, dent pour dent. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu dit, la sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Ça veut dire que malgré que mon frère m'a offensé, je ne lui rétribue pas de la même façon. Je vais continuer à l'aimer avec amour. Lui dire, mon frère, tu m'as offensé dans ces points et ces points-là, je veux que nous soyons en règle. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Ça, c'est la maturité, la sagesse conciliante, pacifique, et pleine de miséricorde et exempte de duplicité. C'est quoi la duplicité? L'hypocrisie. On peut dire que c'est un synonyme d'hypocrisie. La duplicité, ça veut dire qu'on a deux personnalités. Hein. Dans certaines situations, je suis comme ça, et dans d'autres, je suis comme ça. Mais non, Dieu veut que nous soyons tels que je suis ici, je suis à l'église, je suis au travail, je suis à la maison, être vrai. Je ne pratique pas la duplicité, je ne suis pas hypocrite. Comme je disais parfois, l'hypocrisie est là aussi. Hein. Je veux saluer mon frère ou ma soeur, mais dans mon cœur, je ne l'aime pas vraiment. Je ne voudrais même pas lui diriger la parole. Alors ça, c'est un péché et ce n'est pas du tout la sagesse qui vient d'en haut. Après, si on passe au chapitre 4, Jacques vient maintenant confronter d'une façon un peu plus directe encore les frères. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Il pose la question. C'est une question rhétorique. Hein. On dit, c'est une question que lui, il connaît la réponse. Mais il pose la question pour voir l'attitude des frères et des sœurs. D'où viennent les querelles? D'où viennent les disputes entre vous? D'où est-ce que vous pensez que ça vient? Est-ce que c'est parce que vous êtes très spirituel? Il dit, il répond, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Encore une question. Une question de laquelle on connaît déjà la réponse. Il connaît la réponse. On dit une question rhétorique. On connaît qu'est-ce que vient après. C'est quoi donc la source de la guerre, les disputes qu'il y avait l'Église? Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, parce que la sagesse d'en haut, on a déjà vu que c'est conciliante, pacifique, pleine de miséricorde. Mais d'où viennent les querelles, d'où viennent les problèmes, les luttes, les disputes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Ça, il commence à démembrer la vraie situation. Hein? Vous êtes dans la misère, pas parce que Dieu n'est pas bon, pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que vous êtes en train de quoi? Mais pas la confiance en Dieu. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas.
Quand on convoite, c'est parce qu'on veut plus que qu'est-ce qu'on a. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça qui est le problème, qu'on veut plus.
On a vu aussi le principe du contentement, vous vous souvenez? C'est quoi le principe du contentement? Qu'est-ce que c'était qui disait, ne me donne pas beaucoup? Il priait le Seigneur. Et la convoitise, c'est comme disait Richard, quand je veux plus de ce que j'ai déjà et qui remplit, qui comble mon besoin. Et la convoitise dépasse, mais ce n'est pas le fait de vouloir. Je crois qu'il y a une limite. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas un péché que je puisse vouloir m'améliorer dans certaines situations. C'est légitime. Si je le fais par les bons moyens, pour mon travail, Dieu me donne les ressources nécessaires pour avoir une meilleure chose, une meilleure situation financière. Et ça, c'est légitime. Et on a vu aussi que dans la Bible, il parle des croyants qui étaient riches, même milliardaires, hein, comme Abraham, Salomon, David et d'autres personnages bibliques qui étaient riche, mais pourtant il aimait Dieu. Et il s'était bien vu au point de vue de Dieu, divin. Mais la convoitise qui est dans notre cœur, c'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas délimiter nos besoins vraiment. Là. Puis on veut, d'une façon méchante, avoir plus de ce que nous possédons. Mais Jacques dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Meurtrier, ça c'est sérieux. Hein? C'est très sérieux, vous êtes meurtrier. Comment, pourquoi est-ce que Jacques, vous pensez, est allé au point de dire que les chrétiens de l'Église étaient des meurtriers? C'est quoi un meurtrier? Mais pourquoi il fait le lien des meurtriers et envieux? Il y a un lien qu'il fait là. Parce que le désir est incontrôlé et exagéré, peut amener quelqu'un même à tuer. Alors, c'est pour ça que Jacques est en train de dire, si vous continuez dans cette situation, à pratiquer la sagesse qui vient du monde et n'est pas la sagesse d'en haut, vous êtes des meurtriers, des assassins en potence. Vous êtes prêts même à tuer quelqu'un pour avoir ce que vous voulez. Et c'est vrai.
C'est une question d'obtenir aussi. Hein. On parle d'envie, de convoitise d'envie. On peut liquider quelqu'un pour y prendre ce qu'il a qu'on n'a pas. Donc, peut-être dans ce sens-là de meurtrier. Et puis, tuer quelqu'un, ce n'est pas nécessairement lui enlever la vie. Tuer quelqu'un de...
Et dans le sens que Jésus a dit, par rapport à l'adultère, hein, si vous voyez une femme pour la convoiter dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère avec elle. C'est d'un aspect spirituel. Meurtrier, peut-être, n'est pas allé jusqu'à commettre l'acte, littéralement parlant, mais dans le cas, vous êtes déjà un assassin.
À force de critiquer un ministère de quelqu'un, on peut faire en sorte que cette personne-là arrête son ministère, arrête son service, donc on le tue dans son ministère pour l'Église. C'est ça que je voulais dire. La critique est terrible. On peut tuer quelqu'un avec la critique.
1 Jean 3:15. Quiconque est son frère est un meurtrier.
C'est ça. Parce que dans le cœur, il y a le sentiment déjà, il serait capable de tuer. S'il ne parvient pas à contrôler ses émotions, il est déjà, comme je dis, quelqu'un qui pourrait. Dans son cœur, en tout cas, il a déjà le sentiment de meurtrier. C'est ça qu'il veut dire.
Il y a le proverbe qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Jésus a dit « Ce qui va dire imbécile raconte à son frère mérite d'être puni par le GN. »
Ouais.
Les mots peuvent... la vie comme peuvent donner la mort, ça c'est très clair. Et je pense que dans cette partie-là, on montre l'homme charnel, puis l'homme charnel n'a pas le contrôle de sa langue.
Alors, il y a deux situations aussi, parce que je vous pose la question pour notre réflexion. Est-ce que vous croyez que toutes ces choses qu'on vient de mentionner, des choses méchantes, des choses qui ne sont pas correctes, c'est les principes bibliques, et est-ce qu'il y a un chrétien, une chrétienne capable de faire toutes ces fautes-là ou pas? Oui! Oui, malheureusement, on est encore dans la chair, mes frères. Et si on ne se laisse pas conduire par le Seigneur, on ne fait pas prévaloir le contrôle de l'Esprit dans nos vies, on est capable de faire ça et pire, peut-être. Alors, mais il y a les deux cas aussi. Vous savez, le Seigneur a parlé de l'ivraie et le blé. Alors, première chose qu'on ne doit pas faire, c'est de juger. Oh, lui, il n'est pas chrétien, parce qu'il agit de la sorte, puis on se met dans la place de Dieu. Hein. S'il agit comme ça, synonyme de qu'il n'est pas chrétien. Et qui m'a donné le pouvoir de discerner les cœurs, les pensées de mes frères et mes sœurs? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à l'ivraie et le blé? Laissez-les croître ensemble. Mais j'ai surveillé mon frère, et mon frère me surveille à moi, pour nous entraider. C'est quelqu'un qui surveille sur l'autre, et l'autre surveille sur moi, mais pour le bon sens, pour garder mon frère dans la bonne voie, pour garder mon frère dans les bons principes, pas pour juger mon frère, pas pour critiquer mon frère, pas pour tuer mon frère, mais je surveille mon frère, et mon frère me surveille à moi, pour nous entraider, pour nous garder dans la bonne communion de la parole, dans la bonne pratique, dans la sagesse d'en haut, pour que le Seigneur puisse vraiment aller de l'avant l'Église dont nous sommes partis. Et cette Église, l'Église universelle, mais l'Église locale pour nous, c'est l'Église de Rosemont. Alors, c'est ça le point. C'est vrai. selon le point de vue de Jésus-Christ, ici dans notre Église, malheureusement, il pourrait y avoir des frères, qu'on dit des frères, qui peut-être sont même dans les livres des membres, officiellement parlant, et peut-être ne sont pas des vrais chrétiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit, laissez croître l'ivraie et le blé. Au moment venu, c'est Dieu qui mettra de côté le blé et l'ivraie.
Pour montrer la fragilité de l'être humain, mm-hmm. je vais dire du chrétien même, parce que David n'était pas livré pourtant. Si on regarde bien la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, pourtant David est allé jusqu'au meurtre. Notre nom peut même être inscrit dans le livre de vie. Et
capable de faire toutes ces choses-là.
Ouais.
Ouais. C'est pour ça que je disais, je amenais au point les deux choses. Qu'un chrétien est capable de faire ça est pire, et qu'aussi il y a les livrets qui croisent dans l'église du Seigneur. Alors il faut faire attention, mais c'est pour ça que je parle aussi de nous surveiller les uns les autres, pour nous entraider. Même si c'est, le frère est un ivré, c'est pas le blé, mais je ne le sais pas. Je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Alors je dois toujours aider cette personne-là.
Bon, c'est un peu complexe pour moi parce que, en même temps, on le dit, il y a le Seigneur qui donne aussi des avertissements par rapport à ces habitudes. Parce que lorsqu'on lit Galates, mm-hmm. à partir du verset 21, j'épargne tout ce qui est dit, mais vers la fin, il dit n'hériteront pas, ça, et tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mm-hmm. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer qu'en tant que chrétien, on peut pratiquer ces choses-là, mais l'Esprit de Dieu en nous parle. On donne l'exemple de David, mais David, quand il a vécu ça, il est revenu au Seigneur, c'est-à-dire qu'il s'est répenti. Mm-hmm. Mais pour celui qui ne se répand pas, il prend plaisir. La Bible dit que le chrétien, il ne pratique pas le péché. C'est vrai qu'on est pécheur, mais on ne pratique pas le péché, on ne vit pas dedans. Ouais. Ben, l'Esprit de Dieu nous parle, on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc, mm-hmm. effectivement, en tant que chrétien, je pense que c'est vrai qu'on va tomber, mais l'Esprit de Dieu va nous parler pour qu'on puisse revenir à lui.
Ouais.
Donc, si on ne revient pas à lui, puis on se complaît dedans, c'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation.
Oui, et puis Paul parle aussi de quelqu'un qui n'a pas de père, là, qui n'est pas légitime, qui reste sans discipline, n'est pas un fils, mais est comme un bâtard, quelqu'un qui n'a pas un père. Si c'est un enfant de Dieu, il va revenir à la foi, à la communion avec Dieu et l'Église, ou il va être enlevé par le Seigneur, comme le cas d'un Corinthien. Lui, il vit dans le péché, il vit dans le désordre, et il ne reçoit pas la discipline, c'est parce que ce n'est pas un enfant.
La parole de Dieu est claire que dans l'Église, on doit avoir de l'ordre. L'ordre égale une discipline. Même dans la discipline, Dieu ne nous demande pas de déterminer si telle personne qui vit dans le péché passera l'éternité en enfer ou l'éternité au ciel. Elle nous dit de le chercher des rangs de la communion, pour préserver, entre guillemets, la sainteté du groupe, mais de le considérer comme un païen. Mm-hmm. Elle ne nous dit pas c'est un païen, c'est un inconverti, va aller en enfer. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit de faire comme si que. Mm-hmm. Et c'est ça l'important. Ce n'est pas à nous de juger si tel ou tel personne est sauvé ou pas. Mais que si ses actions ne fonctionnent pas selon ce qu'il devait être, elle nous dit de le chasser, de le considérer comme un
inconvénient. C'est ça. Et dit en passant, il ne dit pas non plus de l'oublier complètement. Parce que, encore une fois, ce n'est pas moi qui connais le cœur de ce frère-là ou de cette personne-là, mais c'est Dieu qui le connaît. Alors je dois toujours avoir la bonne attitude envers cette personne-là, mais la règle de Dieu, la règle biblique dit de l'exclure de l'Église à cause de ce comportement parce qu'il ne veut pas entendre les exhortations de l'Église. S'il écoute, ben, peut-être que c'est un vrai chrétien. Ou je ne sais pas, s'il n'est pas un vrai chrétien, à un moment donné, Dieu va le sauver. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut toujours montrer l'amour. N'importe envers qui, envers un frère en premier, la famille de Dieu, la famille de la foi en premier, et ensuite, ceux qui ne le sont pas. Mais si c'est quelqu'un d'entre nous qui est là, et c'est sûr qu'il y en a, je répète encore, c'est sûr qu'il y en a, et ça a été la situation pendant toute l'histoire de l'Église chrétienne, hein, de personnes qui arrivaient, parfois avec de bonnes intentions, parfois avec de mauvaises intentions. Mais on doit surveiller, on doit être attentif. C'est pour ça que Dieu place l'Église, pour que l'Église, on se garde, nous, ensemble, et qu'ensemble, on puisse nous entraider et puis identifier ceux qui ne sont pas bons pour l'Église. À un moment donné, on va les amener pour les mettre en ordre. S'ils écoutent la discipline, s'ils se soumettent à la discipline, Ben, c'est qui moi pour juger qu'il n'est pas chrétien ou qu'il n'est pas un converti? Alors, il faut faire attention. Dieu, il veut que nous soyons, en tout cas, montrions l'amour envers tout le monde. En premier, la famille de la foi, mais aussi envers ceux qui ne croient pas au Seigneur. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ben, il parle de l'adultère, pas physique, pas sexuel, mais il parle de l'adultère spirituel. L'adultère qui amène quelqu'un à mettre son intérêt dans d'autres choses que Dieu, à mettre son affection dans d'autres choses que l'affection pour le Seigneur. C'est un adultère. Dans l'histoire d'Israël, par exemple, il y a plusieurs reprises dit, appelé adultère à Israël, à Judas. Il dit, vous êtes des adultères parce que vous êtes prosternés devant les idoles et vous avez adultéré dans l'amour que vous devez donner juste à l'Éternel, mais vous l'avez donné aux idoles. Vous avez mis votre foi et votre intérêt dans d'autres choses qui n'est pas Dieu, que des dieux que vous avez créés vous-même. Alors, il est en train de dire qu'ils sont des adultères aussi. Jacques est quand même dur. Hein. Quand ils ont mis leur amour, leur intérêt dans d'autres choses qui n'est pas Dieu. Dans la pratique, ils ont délaissé Dieu, ils se laissent aller pour d'autres intérêts. Alors, ils ont mis leur affection dans d'autres choses, et c'est pour ça qu'ils sont dans un problème grave dans l'Église. Ils ont se laissé guider par le Seigneur. Alors, il dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il faut que nous soyons vraiment attentifs, nous, chacun de nous-mêmes et de l'Église qui nous entoure, des frères avec qui nous sommes ensemble. Il va continuer à dire, ils ont développé l'amitié avec le monde. Ils n'ont pas développé la sagesse qui vient d'en haut, mais ils ont développé l'amitié avec le monde. Alors, ils se sont constitués des ennemis de Dieu, parce qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas servir du Seigneur, hein, parce qu'on haïra un Seigneur, puis on aimera l'autre. Alors on doit aimer juste Dieu, et c'est à cause de ça que vient l'adultère spirituel. Il a dit qu'aussi, ils ont de mauvaises motivations, ils ont dans leur cœur d'autres choses que l'amour, le vrai amour pour Dieu et pour le frère. Ils ont d'autres intérêts. Ils vont, selon leur convoitise, chercher les choses d'une façon égoïste. C'est ça qu'il est en train de dire aussi. Ils cherchent l'amitié du monde. Ils se sont liés en adultère avec le monde. Si vous lisez dans Jérémie, par exemple, Jérémie 3, le chapitre 3, c'est là que Dieu accuse Israël d'avoir délaissé Dieu et aller derrière les idoles. Ils ont choisi plutôt d'adorer les idoles que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant. Et il cherche aussi des bénéfices égoïstes. Dans les versets 5 et 6, il dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, Jacques finit comme ça, ou on finit notre cours avec cette phrase de Jacques, « Dieu résiste les orgueilleux, puis donne grâce aux humbles. » L'orgueil, c'est l'attitude de Satan. La sagesse du monde, c'est diabolique. La sagesse d'en haut est pleine d'amour, de miséricorde, d'humilité et conciliante. Choisissons, voyons. Ce matin, c'est ça que Dieu veut nous montrer. Que nous voyons clair les deux choses, les choses. Où est-ce que nous amène si on pratique la sagesse terrestre et on pratique la sagesse du monde?